Info matin, Nicolas Legrand.
Une question culottée et inappropriée. Réaction du député Nicolas Metzdorf après la prise de parole du député Emmanuel Tchibaou qui a vivement critiqué le projet des loyalistes à l'Assemblée nationale. Actualité judiciaire, un cadre de la CCAT arrêté, le référent de Wailou a été placé en détention provisoire. Il est accusé d'avoir mené des actions très violentes à l'encontre de la gendarmerie et d'avoir empêché la tenue des législatives dans la commune. L'actualité nationale, le budget de la France adopté, les députés ont rejeté les motions de censure de la France insoumise. Le torchon brûle entre LFI et les socialistes. Dans la région, c'est le Waitangi Day, la fête nationale de la Nouvelle-Zélande. Sur le territoire, les ressortissants kiwis vont célébrer l'événement en famille ou entre amis. Le sport du football ce matin est la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France. Un seul duel entre clubs de Ligue 1 au programme. Strasbourg accueille Angers. La météo, la deuxième dépression tropicale faible, continue sa route vers le sud. Elle est actuellement à 300 km au large de Koné. Le temps devrait donc se dégrader en cours de journée. On y revient dans ce journal.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité calédonienne à Paris.
Oui, avec la poursuite des discussions bilatérales entre Manuel Valls et les délégations des groupes politiques calédoniens. Hier, vous le savez, ce sont les loyalistes qui ont été reçus les premiers, rue Oudino, pour un échange de 2 heures, au cours duquel ils ont présenté le projet de fédéralisme territorial. Aujourd'hui à Paris, c'est la délégation du Rassemblement qui était reçue avant Calédonie Ensemble. Et ce sera ensuite le tour des délégations indépendantistes, l'UCFLNKS, puis l'UNI. Et enfin, l'éveil océanien sera reçu à son tour par Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, qui souhaite par ailleurs rencontrer les délégations une seconde fois, quand il aura fait un premier tour des positions des uns et des autres. Les loyalistes et le Rassemblement ont décidé d'aller ensemble à ce second entretien pour montrer qu'ils parlent d'une même voix et défendent le même projet. En marge de ces échanges, vous le savez, le député Emmanuel Tchibaou a interpellé hier le ministre des Outre-mer lors de la séance des questions au gouvernement. Il s'en est pris violemment au projet de fédéralisme interne porté par les loyalistes. Dans sa réponse, Manuel Valls décrit une Calédonie meurtrie et il dit avoir le sentiment d'un terrible retour en arrière. Il affirme que seul le dialogue permettra de reconstruire un projet commun et partagé. Il nous faudra être inventif, ambitieux et courageux pour bâtir un compromis et sortir des positions radicales, déclare encore l'ancien Premier ministre. Aujourd'hui, le député Nicolas Metzdorf réagit à son tour à cette question. Pour lui, la réponse du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui a appelé les forces politiques à sortir des positions radicales, était un message qui s'adressait au FLNKS et en particulier à l'UC. Et pour Nicolas Metzdorf, la question du député Emmanuel Tchibaou était malvenue.
Je trouve que la question du député Tchibaou est très culottée, dans la mesure où les Calédoniens non indépendantistes ont toujours combattu l'apartheid en Nouvelle-Calédonie. Je ne crois pas que lors des émeutes du 13 mai, il y ait eu un non indépendantiste insulter une autre ethnie. Par contre, ceux qui ont été dans la rue au slogan de « Dehors les Blancs », c'est bien les troupes que M. Tchibaou représente. La deuxième chose, c'est qu'il ne fait rien pour arranger les choses. Puisque, un, il vient avec une délégation qui est uniquement composée de personnes qui sont allées à Bakou, entre M. Forest, M. Ouamitan et Mme Omera Nesline, et qu'il conteste notre projet avant même les négociations, alors que lui, on ne sait toujours pas quel est le projet du FLNKS. Donc je trouve que, un, de nous mettre sur le dos une volonté d'apartheid, alors que nous n'avons jamais tenu des slogans racistes, que deux, venir à Paris accompagner des indépendantistes de Bakou et que trois, casser notre projet sans en avoir un, c'est vraiment culotté de sa part.
Le député de la première circonscription s'interroge aussi sur l'intérêt qu'il y avait à poser une question clivante avec des mots très durs, alors que s'ouvrent à Paris des discussions sur l'avenir institutionnel du territoire. Un ton offensif qui masque pour Nicolas Metzdorf une absence de stratégie des indépendantistes.
J'ai trouvé que c'était très inapproprié en fait de poser une question au gouvernement avant les négociations en attaquant la position des non-indépendantistes. Si on voulait faire échouer les négociations, on ne s'y prendrait pas mieux. Nous, on est très prudents dans nos communications officielles. Ça nous est parfois reproché par nos militants parce qu'on donne très peu d'éléments, mais parce qu'on veut que la négociation puisse aboutir. Donc arriver en question au gouvernement publiquement en cassant le projet des soi-disant partenaires, je ne trouve pas que ça soit la meilleure façon qu'a le FLNKS d'arriver pour trouver un accord. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je pense qu'il n'y a pas de stratégie. On a un FLNKS qui est simplement omnibulé par la pleine souveraineté et qu'ils le disent partout et que c'est leur seule revendication et que donc on ne cherche pas derrière à trouver un compromis, on ne cherche pas derrière à essayer de rebâtir la Nouvelle-Calédonie, à trouver des solutions économiques et sociales. Alors que moi, ce qui m'inquiète plutôt de leur côté, c'est le manque de stratégie.
Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Je rappelle donc que les discussions se poursuivent rue Oudinot et qu'aujourd'hui, après les loyalistes hier, c'est la délégation du Rassemblement qui était reçue avant celle de Calédonie Ensemble. Dans l'actualité judiciaire maintenant, une information judiciaire a été ouverte après les exactions qui ont visé la gendarmerie et la mairie de Wailou les 28 et 30 juin dernier. Ces actes de violence avaient empêché la tenue dans la commune du premier tour des élections législatives, Léo Fichou.
Jean-Pierre Baou, qui est le référent CCAT de la commune de Wailou, a été placé en garde à vue le 31 janvier dernier après plusieurs mois d'investigation. Il a été présenté mardi devant un juge d'instruction et mis en examen pour de nombreux chefs d'inculpation. Le magistrat a retenu à son encontre l'association de malfaiteurs, la participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de destruction, l'entrave à la circulation, la destruction par incendie en bande organisée, les violences sur des gendarmes, le vol du matériel de vote par effraction et en réunion, et enfin le trouble porté aux opérations de vote. Il est suspecté d'avoir préparé des actions violentes à Wailou, notamment l'attaque de la gendarmerie avec un engin minier et d'avoir empêché les électeurs de voter au premier tour des élections législatives. L'individu a sollicité un délai pour préparer sa défense. En attendant la prochaine audience, il a été placé en détention provisoire au camp Est.
Amarrés maintenant, les agents de l'OPT ont été victimes d'agressions. L'Office des Postes a réagi et a décidé de fermer ses agences hier. Une situation qui serait liée notamment au manque de personnel soignant sur l'île, selon la maire de la commune, Marilyn Sinewami. La personne à l'origine des agressions d'hier serait en effet sous suivi médical, mais ne serait pas bien encadrée.
Ils ont subi une agression de la part d'un administré. En fait, il est sous suivi médical. Voilà, quelqu'un qui n'est pas bien encadré aussi dans la prise de son traitement. Et donc, voilà, il s'est trouvé qu'il a eu un comportement agressif à l'agence de La Roche. Donc, il y a aussi la question du suivi, hein. Il y a eu un manque de suivi avec les événements de mai, que les personnes ne suivent de moins en moins leur traitement et peut-être aussi un manque au niveau du personnel médical.
Une situation qui n'est malheureusement pas isolée. Les attaques contre les bâtiments de services publics sont récurrentes sur l'île, comme l'explique Marilyn Sinewami.
Depuis l'an dernier, on a subi des dégradations sur nos bâtiments publics. On a eu quelques mois de paix, on va dire, sans infraction, sans dégradation. Et là, ben, ça a repris. Donc, c'est assez récurrent. J'avais rencontré l'OPT il y a 2 semaines. Et on avait convenu de faire des actions communes de soutien lorsque l'un et l'autre ont subissé des dégradations. Donc, nous, on pense à leur communiquer par un autre communiqué de sensibilisation auprès de la population. S'il y a d'autres cas, peut-être on fera des débrayages ensemble ou des fermetures ensemble.
L'agence OPT de Tadine doit rouvrir ses portes ce matin, tandis que celle de La Roche restera fermée pour être réparée et sécurisée. Les administrés devront donc, jusqu'à nouvel ordre, se reporter à l'agence de Tadine. Et puis de vives tensions également sur la commune de Bouraille, avec 2 nuits de violence ces derniers jours, Léo Fichou.
Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, d'abord, les gendarmes et les pompiers sont intervenus au cœur de la tribu de Bouirou pour des violences intrafamiliales. Alors qu'un couple se disputait, un voisin a voulu intervenir et c'est là que tout a dégénéré. Le mari a tiré au fusil à travers l'étole et a blessé le voisin au bras avec du petit plomb. Les pompiers ont porté secours à l'homme blessé. Les gendarmes, eux, ont interpellé le tireur. Et puis, dans la nuit de lundi à mardi, des jeunes ont été repérés par les caméras de surveillance de la commune en train de détruire un coffret électrique dans le centre du village. Ils ont été poursuivis par les gendarmes et l'un d'entre eux a été reconnu par les forces de l'ordre. Pour autant, aucune interpellation n'a à ce jour été effectuée.
Radio Rythme Bleu, il est 6h39.
Le temps va se dégrader aujourd'hui sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. La deuxième dépression tropicale faible de ce début d'année continue sa route vers le sud, Léo.
De la pluie ce matin, puis du vent et des orages cet après-midi. C'est le programme météo de la journée sur l'ensemble ou presque du territoire. La dépression tropicale faible TD06F se situe actuellement à environ 300 km à l'ouest de Koné et devrait se rapprocher de la Grande Terre en fin de journée. Les détails de Claude Van Royen, prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Cette dépression va d'abord diriger un vent de nord sur le nord du pays et sur les loyautés. Le sud-ouest va se trouver abrité par le relief pendant une bonne partie de la journée, puis le vent risque de se renforcer brutalement en cours d'après-midi, sur le sud-ouest notamment, avec des vents qui sont envisagés entre 25 et 30 nœuds en vent moyen, et des rafales qui pourraient atteindre 45 nœuds. En termes de précipitations, précipitations déjà cette nuit. On a eu des cumuls notables, notamment entre le nord-est de la Grande Terre et les îles Loyauté. On a enregistré par exemple 52 mm en 12 heures à Ouloup et 42 mm cette nuit à Bonnet-Rivoin.
Dans la journée, la pluie va continuer de tomber avant que des orages ne se manifestent donc sur le territoire. On retrouve Claude Van Royen, prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Dans la journée, il va continuer à pleuvoir, donc des pluies relativement faibles de façon généralisée et localement, principalement sur le nord de la Grande Terre et encore les Loyautés, des précipitations qui pourront être localement fortes et orageuses. Puis, dans un second temps, au cours de journée, dans l'après-midi, des cellules orageuses qui sont actuellement au large, à l'ouest de la Grande Terre, vont se rapprocher et pourront donner localement des cumuls également importants sur l'ouest.
Et je rappelle que l'ensemble des 33 communes du territoire sont placées en vigilance jaune, vent violent et forte pluie et orage.
Et le Petit Chaud a de nouveau modifié son planning de rotation en raison de ses conditions météorologiques. Une rotation Nouméa-Marée est prévue aujourd'hui. En revanche, il ne prendra pas la mer demain. Samedi, le navire effectuera une rotation Nouméa-Lifou et dimanche, un aller-retour Nouméa-Île-des-Pins. La priorité sera donnée aux passagers concernés par les annulations des voyages depuis ce début de semaine. Les voyageurs qui sont contactés par SMS et par téléphone. Et puis Air Calin, de son côté, met en place une rotation supplémentaire vers le Vanuatu aujourd'hui. Un A320 Neo opérera cette rotation entre la Tontouta et Port-Vila avec un départ à 18h pour une arrivée au Vanuatu à 19h10. Puis un décollage retour prévu à 20h25 pour un atterrissage à la Tontouta à 21h30. La compagnie aérienne annonce que ce vol aller-retour fait suite à l'annulation cette semaine de deux rotations vers le Vanuatu assurées par Air Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Au-delà de la situation météo actuelle, à quoi sont dues selon vous les difficultés et la désorganisation du transport aérien et maritime vers les îles ? Si vous pensez que c'est dû à une mauvaise gestion, vous tapez 1. Si vous pensez que c'est une conséquence des émeutes de mai, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, 25% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'UNC a raison de vouloir créer une filière Sciences Po à Nouméa. Ils sont 75% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. On va terminer avec vos rendez-vous d'antenne. On va s'intéresser au réseau Taneo ce midi dans les jeudis de l'économie. La délégation de services publics prend fin ce soir à minuit, vous le savez, et seul Car Sud a répondu à l'appel d'offres pour ce nouveau réseau de transport en commun dans le Grand Nouméa. Les bus qui circuleront de nouveau lundi avec un nouveau réseau de 8 lignes, une réorganisation rendue obligatoire après les très lourds dégâts liés aux émeutes. Mais alors comment Taneo va-t-il se relancer? Dans quel périmètre et avec quel budget? Rendez-vous donc ce midi dans les jeudis de l'économie, juste après le journal de la mi-journée. Jean-François Baudin recevra Naya Wateu, la présidente du SMTU, Francisco Sionnet, délégué syndical U5 section transport, Yannick Lérand, directrice de la maison des étudiants à l'UNC, et Rebecca Floramignana, directrice de Envie, un organisme de service à destination des personnes handicapées. Et puis le World Mosquito Programme a fait ses preuves dans les communes de l'agglomération. Depuis 2019, aucune épidémie de dengue n'a été détectée sur le territoire. Le programme consiste, vous le savez, à introduire des moustiques porteurs d'une bactérie naturelle, la Wolbachia, qui stoppe le développement de la maladie chez les moustiques. Nous dresserons le bilan des 6 ans de ce programme tout à l'heure à 7h30. Notre invité sera en effet Nadège Rossi, chef de projet World Mosquito Programme en Nouvelle-Calédonie. En attendant, il est 6h45 et on va marquer une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole. Actualité marquée par l'adoption du budget de la France puisque les motions de censure de la France insoumise ont été rejetées.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
T'es monté dans ta belle auto pour venir au marché de Farino.
Le marché de mamie jouera les cupidons en avance ce dimanche 9 février de 8h à midi lors du marché Place de la Mairie à Farino. Venez partager un moment convivial et découvrir des produits locaux et de terroir faits et préparés avec amour. Fruits et légumes de saison, les crabes de retour. Artisanat local fait main dans un tourneur sur bois avec démonstration. Charcuterie, miel, vanille, rosier et plantes magnifiques avec des prix très abordables et bien d'autres produits. En couple, en famille ou entre amis, le marché de mamie vous attend. Café et restauration sur place, c'est à Farino ce dimanche.
Une chute, un accident de sport, de jardinage ou de bricolage, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Pour vous protéger, AXA dispose du contrat Ma Protection Accident à partir de 1074 francs par mois. Pour en savoir plus, contactez vite votre conseiller AXA. AXA, à vos côtés. RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La France a adopté son budget. François Bayrou a sauvé sa place à Matignon. Les motions de censure déposées par la France insoumise n'ont pas obtenu la majorité puisque, je le rappelle, les socialistes ont décidé de ne pas les voter et de faire adopter ce qu'ils appellent pourtant un budget de droite. Écoutez Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale.
La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2025 sont considérées comme adoptées.
Et c'est donc en quelque sorte l'implosion du nouveau Front populaire. Mathilde Panot, la chef de file des députés de la France insoumise, déclare que le Parti socialiste ne fait plus partie du NFP.
Toutes celles et ceux qui vont voir ce budget injuste s'appliquer pourront dire merci non seulement à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, mais aussi à François Hollande et à Olivier Faure. Nous prenons donc acte aujourd'hui que le PS a décidé unilatéralement de rompre avec le nouveau Front populaire. Il renie ainsi l'espoir populaire qu'avait fait naître le nouveau Front populaire et les engagements qu'ils avaient pris devant les électeurs et les électrices. Il renoue surtout avec la politique qui avait été menée sous François Hollande et qui avait dégoûté tant et tant de gens et nous rappelle qu'Emmanuel Macron est le produit, avant d'être président de la République, du ministre du gouvernement sous François Hollande lorsqu'il était lui-même président.
Et réaction d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Selon lui, le nouveau Front populaire continuera d'exister, je cite, « pour battre l'extrême droite ». Les socialistes qui doivent déposer à leur tour une motion de censure à l'encontre du gouvernement de François Bayrou, mais uniquement sur les propos du Premier ministre qui a parlé, je le rappelle, de submersion migratoire. Le budget de l'État est donc adopté, mais pas définitivement, puisque le Sénat doit tout de même se prononcer à son tour ce jeudi pour que ce projet de loi de finances soit définitivement adopté. Je rappelle que la commission mixte paritaire avait donc entré l'aide de l'État à la Nouvelle-Calédonie avec cette garantie de prêt de l'ordre de 120 milliards de francs. À l'étranger, Donald Trump multiplie les annonces choc. Le nouveau président des États-Unis a par exemple proposé de vider Gaza des Palestiniens et d'en faire la Côte d'Azur du Proche-Orient. Il a aussi négocié des terres rares avec Volodymyr Zelensky en échange de la reconstruction de l'Ukraine. Sans oublier ses bras de fer sur les droits de douane avec le Canada, le Mexique, la Chine et l'Union européenne. C'est en fait la méthode Trump, l'art du deal, une méthode qui choque mais qui semble porter ses fruits. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Alors oui, avec des résultats, vous venez d'en énumérer certains sur le plan diplomatique, mais dont on peine parfois à voir les effets sur le long terme ou des résultats qui sont parfois cosmétiques, comme ces quelques concessions faites par le Canada pour ne pas subir les tarifs douaniers américains. Reste que c'est bien un changement de méthode radical dans la stratégie diplomatique américaine et il va falloir s'y faire. C'est la méthode Donald Trump, rappelez-vous de son premier mandat, favoriser l'offensive et attendre les réactions adverses. Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis.
Il est connu pour lancer des annonces choc, de fixer les termes de la conversation, de créer un rapport de force dès le départ. C'est ce qu'il a fait là encore, en disant que les États-Unis allaient prendre le contrôle de Gaza. Ça sert également à tester les réactions. On utilise l'effet de surprise. On garde ses adversaires dans l'incertitude et puis on essaie de les forcer à des concessions.
L'effet de surprise et de saturation, c'est bien ce sur quoi s'appuie Donald Trump en multipliant les annonces choc, qu'importe la réalité de ses déclarations du moment qu'elles apportent des résultats.
Il faut comprendre qu'avec cette stratégie-là, il donne l'impression qu'il est capable de tout. Et c'est vrai que ceux qui sont dans le viseur de Donald Trump, pourrais-je dire, ont intérêt à se tourner vers lui et à discuter. C'est ce que fait l'Iran.
Et l'Iran qui s'est dit aujourd'hui, dans la foulée des annonces de Donald Trump sur Gaza, prêt à négocier avec la nouvelle administration américaine en vue d'une levée des sanctions qui pèsent sur le pays. Se montrer donc menaçant, mais toujours ouvert à la négociation, imposer la paix par la force. Voilà pour l'instant la teneur diplomatique des premières semaines du second mandat de Donald Trump.
Wilfried de Villers pour Europe 1, il est 6h50. On va marquer une deuxième pause publicitaire dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie avec notamment la rentrée scolaire qui approche à grands pas.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Chez Simac Quincaillerie, à partir du 1er février, c'est la rentrée des prix. La perceuse visseuse Makita 450 watts Mandrin Auto est à 7900 francs, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur simac.nc, à Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Katéviti. Simac Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Conné.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Info matin avec la suite de l'actualité sur le territoire. On retrouve Nicolas Legrand.
Et c'est donc bientôt la rentrée scolaire. Et partout, les directeurs et les directrices d'école se préparent à recevoir les élèves pour une nouvelle année. Et hier après-midi, une messe était d'ailleurs célébrée en la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa et réunissait le personnel de la direction diocésaine de l'enseignement catholique de Nouvelle-Calédonie, Léo Fichou.
Les mots prononcés par le père Roch Apikawa ont beaucoup touché les croyants présents à la cathédrale hier après-midi. Cette messe a réuni le personnel de direction des établissements de la DEC, celui de la direction centrale et des départements associés. Une célébration à laquelle Manuel Van Erschot a assisté pour la première fois en tant que nouveau directeur de la DEC.
Alors cette messe marque pour nous, enseignants personnels divers de la DEC, le début d'une année scolaire qui nous permet, surtout en cette année de jubilé, de pouvoir nous rassembler sous le regard du père Roch qui a célébré cette messe, de pouvoir nous sentir forts pour démarrer cette nouvelle année scolaire et ainsi pouvoir nous présenter pleine force, je disais, auprès des enfants dont les parents nous confient l'éducation.
Un moment important pour lequel certains directeurs d'établissement n'ont pas hésité à se déplacer, c'est le cas de Joanne Vauquier, chef des établissements de l'île des Pins.
Oui, avec les temps qui courent, avec tout ce qu'on a vécu l'année dernière, il était important de se recentrer et de surtout être baigné de toutes ces paroles pour nous guider sur ce chemin et donc une année encore une fois jubilaire. De pèlerinage, à nous de trouver les actions pour concrétiser toutes ces paroles au sein de nos établissements. Ça peut être avec nos équipes, mais ça peut être aussi à travers des échanges entre plusieurs établissements pour des actions communes.
Et la rentrée scolaire qui arrive donc à grands pas, c'est le 17 février que les jeunes Calédoniens retrouveront les bancs de l'école.
On a appris le décès du père Joseph Thuy. Il est décédé mardi chez les Petites Sœurs des Pauvres où il s'était retiré depuis plusieurs mois maintenant, atteint d'une maladie sévère, précise l'archevêché de Nouméa dans un communiqué. Né à Wallis en 1961, il avait fait ses études au séminaire de Suva. Il avait été ordonné prêtre par le diocèse de Nouméa le 4 septembre 1993 par Monseigneur Calvet. Le père Thuy a exercé son ministère pastoral dans la paroisse de Nouméa-Île, puis à la paroisse de Saint-Laurent de Wailou, avant de rejoindre la paroisse du Sacré-Cœur de Païta et enfin celle du Sacré-Cœur de Bouraille. Une veillée de prière à la mémoire du père Thuy est organisée aujourd'hui de 13h à 19h30 à l'église Notre-Dame de Lourdes à Tina. Ses obsèques seront célébrées demain au même endroit à 8h30. Le père Joseph Thuy sera ensuite inhumé au cimetière du 5e kilomètre. C'est un jour spécial pour les Néo-Zélandais. Aujourd'hui, le Waitangi Day, la fête nationale où la signature du traité de Waitangi est célébrée, Léo Fichou.
C'était le 6 février 1840. La couronne anglaise s'engageait à travailler en partenariat avec plus de 500 chefs de tribus maoris de Nouvelle-Zélande. 185 ans plus tard, la célébration de ce jour devenu fête nationale permet de réfléchir à la place des populations maoris dans la société néo-zélandaise. En Nouvelle-Calédonie, les Kiwis ne sont pas nombreux, mais pour autant, ce jour reste spécial pour eux. Benjamin travaille à la communauté du Pacifique et est sur le territoire depuis un peu moins d'un an. Pour lui, le Waitangi Day, c'est surtout l'occasion de se retrouver aussi en famille.
C'est le jour national pour la Nouvelle-Zélande. C'est l'anniversaire d'un traité, le traité de Waitangi. Normalement, c'est vu comme le document pour la fondation de la Nouvelle-Zélande. Évidemment, c'est l'été en Nouvelle-Zélande. C'est une période où il y a beaucoup de jours fériés, fin janvier, et 6 février, il y a Waitangi Day. Donc la tradition néo-zélandaise, c'est faire les barbecues, aller à la plage, prendre une longue week-end, les choses comme ça. Je suis sûr qu'il va pleuvoir ici. Pour moi, non, c'est un jour typique. Je travaille, je bosse, donc pas du tout les choses spéciales pour moi.
Pas de grande célébration donc en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, à Wellington, les Kiwis sont prêts à fêter la signature du traité de Waitangi comme il se doit. Geoffrey vit en Calédonie depuis un an et connaît bien les traditions de son pays. Comme il explique, il y aura des discussions sérieuses sur le sens du traité, mais aussi des spectacles et des fêtes.
Tous les ans, il y a des célébrations qui sont organisées sur le terrain du traité de Waitangi à Wellington.
Les membres du gouvernement néo-zélandais se rassemblent avec des membres des tribus maoris qui viennent de tous les pays. Des discussions sont organisées pendant 3 jours pour toujours repenser le traité et se rappeler ce qu'il signifie pour nous tous. Pour célébrer le Waitangi Day, parfois on descend au Waitangi Park à Wellington. Il y a toujours beaucoup de nourriture, comme le hangi, le plat traditionnel. Il y a aussi des spectacles maoris, des démonstrations de haka et bien sûr beaucoup de musique.
Le Waitangi Day, nommé après l'endroit où le traité a été signé il y a 185 ans, il est fêté aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, qui est donc un jour férié.
Merci Léo Fichou. Il est 6h56, on marque une dernière pause avant de voir toute l'actualité sportive et notamment la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France de football.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Vous cherchez votre futur chez vous ? Caillard et Cadeau Immobilier a ce qu'il vous faut. Ne manquez pas la journée portes ouvertes à la résidence Le Lys Rouge ce samedi 8 février de 8h à 12h30. À cette occasion, profitez d'un mois de loyer et des frais d'agence offerts. F2 simple ou en duplex et F4 de standing, venez les visiter, rêver et imaginer votre nouveau chez vous. Plus d'infos sur Facebook ou au 24 24 24.
Tous les lundis, chez Mobile, doublez vos points Conso Plus. Et ce n'est pas tout. Chaque lundi, Mobile offre à un gagnant ses achats en caisse. Ne manquez pas cette chance. Rendez-vous le lundi dans les stations mobiles participantes.
Mobile Energy lives here.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
L'actualité sportive, c'est la suite d'Info Matin. On retrouve Nicolas Legrand.
Du football, et je le disais, la suite ce matin des huitièmes de finale de la Coupe de France. Et 4 matchs sont au programme, Léo.
Oui, 4 matchs qui ont commencé à 6h45. On joue donc la 12e, 13e minute de jeu sur les différentes pelouses. Avec d'abord le seul duel entre clubs de Ligue 1, Strasbourg, qui reçoit Angers. Angers qui mène 1-0. Toulouse, de son côté, reçoit Guingamp, club de Ligue 2, toujours 0-0. Nice, de son côté, est en Bretagne, sur la pelouse de Saint-Brieuc, club de National 2. Là aussi, il n'y a pas encore eu de but sur le terrain entre le stade briochin et Nice. Et puis, duel entre Cannes, qui évolue en National 2, et Dives Cabourg, pensionnaire de National 3. 13 minutes de jeu, Cannes qui mène déjà 2-0. Pour rappel, hier, Dunkerque, club de Ligue 2, a éliminé Lille. Brest s'est imposé sur 3 et le PSG a dominé Le Mans. Enfin, demain matin, Reims ira affronter le petit poussé Bourgoin-Jallieu, tombeur de l'Olympique lyonnais.
Du football toujours et la Nouvelle-Calédonie qui est un vivier de jeunes talents avec notamment Tom Elbelghiti.
Formé à l'AS Magenta où il a joué jusqu'à ses 11 ans, le fils du docteur Elbelghiti, cardiologue de Nouméa, s'épanouit désormais en métropole à l'AS Monaco. Recruté en août 2023 par le club de la Principauté, Tom est actuellement surclassé avec les U13. À l'AS Magenta, son club de cœur, comme il dit en Nouvelle-Calédonie, n'a laissé que de bons souvenirs. Écoutez Thierry Marmont, responsable de l'école de foot de l'ASM.
C'était un gamin très agréable et très prometteur. Très agréable, toujours une énorme envie de jouer au football. Un passionné de football parce qu'il connaît tous les joueurs, il s'occupe de tout. Même de loin, de Monaco, il suit le club. C'est un bon gamin, bien équilibré. Au niveau scolarité, ça marche super bien. Il a 2 ans d'avance. Puis un souvenir, dernière coupe organisée par le club de Mont-d'Or en 2021. Je pense que c'est un gamin qui est très prometteur et qui risque de continuer à progresser.
Et Tom Elbelghiti raconte sur la page Foot NC qu'il se sent chanceux de pouvoir croiser régulièrement des joueurs professionnels, mais aussi, comme affiché sur ses réseaux sociaux, d'autres Calédoniens, notamment Antoine Comboiré, coach du FC Nantes.
Et puis du tennis, après sa tournée sud-américaine, Maxime Chazal est en Espagne. Le Calédonien dispute le tournoi ITF M15 de Valence. Au premier tour, en 16e de finale, il a battu le Bulgare Anas Mazdrashki en 3-7. Il disputera son 8e de finale à 20h contre le Britannique Jeremy Gventer.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Allez, les prévisions du temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, sans surprise, nous sommes en vigilance jaune, donc c'est pour un vent violent. Un vent de 25 à 30 nœuds, rafale jusqu'à 45 nœuds, ça sera en fin de journée et la nuit prochaine sur l'ensemble du territoire. Et une vigilance jaune pour de fortes pluies, orages sur toutes les communes de la Nouvelle-Calédonie pour des averses parfois orageuses, avec des cumuls pourront atteindre les 100 à 150 millilitres sur le 150 millimètres. Sur le nord, la côte est, la chaîne, l'extrême sud et les loyautés. Ce matin donc, la dépression faible est de plus en plus à plus de 200 150 km à l'ouest de Koné. Le ciel est nuageux à couvert. Les précipitations sont généralement rares et faibles, même si elles sont plus fortes et parfois orageuses par endroits, principalement sur la façade est, l'extrême sud et au Loyauté. Le vent pour ce matin est donc orienté nord à nord-ouest autour des 20 à 25 nœuds. Des rafales pouvant aller jusqu'à 40 nœuds. Sur le sud-ouest, il sera plus faible et variable en direction. Cet après-midi, la dépression se déplace au large de l'ouest de la Nouvelle-Calédonie en se rapprochant progressivement. Le ciel sera souvent couvert, puis plus lumineux sur l'ouest. Les précipitations seront généralement rares et faibles, mais pourront être parfois orageuses, notamment sur les Loyautés et l'île des Pins. Alors le vent pour cet après-midi, nord à nord-ouest, 20 à 25 nœuds toujours, il dépassera les 25 nœuds et des rafales jusqu'à 40 nœuds. Il sera moins fort sur le sud-ouest. Les températures sont stables et généralement proches des valeurs de saison, entre 28 et 32 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal.